Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francis, 13h à Ouagadougou, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Tchad, la société civile et l'opposition tchadienne dénoncent ce qu'elles appellent la défaillance du pouvoir qui menace de rétablir la cour martiale au moment où les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplient dans le pays. Le président tchadien Idriss Déby Itno a fait état mardi à N'Djamena de fortes complicités locales avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la région du lac Tchad, où les militants du groupe ont mené au moins 8 incursions depuis juin 2018. Le chef de l'État a appelé à dénoncer tous ceux qui servent de relais aux terroristes. Le président Déby menace de rétablir la cour martiale supprimée en 1993, alors que l'est du pays aussi est en proie à un grave conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs. Au moins 31 personnes sont mortes à la mi-mai dans cette région au cours d'affrontements entre agriculteurs autochtones ouadaïens et éleveurs membres de tribus arabes. Pour sa part, la société civile tchadienne estime que la montée de l'insécurité est liée à une crise de l'autorité de l'État et à la complicité de certaines autorités décentralisées. Contestation au Soudan maintenant, des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans les rues de Khartoum où la répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire au pouvoir a fait au moins 60 morts depuis lundi, selon un comité proche des manifestants. Depuis la dispersion du sit-in devant le quartier général de l'armée lundi, les forces de soutien rapide RSF des paramilitaires liés à l'armée ont été déployées dans tout le pays, notamment à Khartoum. Les RSF sont accusés par le mouvement de contestation d'être les principaux auteurs de la dispersion par la force des rassemblements qui a fait des dizaines de morts et 326 blessés, selon les contestataires. Pour sa part, le Conseil militaire de transition au pouvoir s'est dit ce mercredi ouvert aux négociations sans restriction après les avoir totalement rejetées la veille dans le contexte de la répression des contestataires. Mais les partisans du changement restent déterminés à poursuivre leur mobilisation. Jean-Roger Bion.
L'association des professionnels soudanais, PAA, clé de voûte de la contestation, a appelé à la grève et à la désobéissance civile jusqu'au renversement du régime. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos mardi en urgence pendant 2 heures à la demande de l'Allemagne et du Royaume-Uni qui ont fait circuler un communiqué appelant les militaires et les manifestants au Soudan à continuer à travailler ensemble vers une solution consensuelle à la crise en cours. Mais l'initiative a été bloquée par la Chine qui a fermement rejeté ce texte et par la Russie qui a exhorté à la prudence et insisté pour attendre une réponse de l'Union africaine selon des diplomates. Le Conseil militaire a dit regretter les violences de lundi. Son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé à des élections générales dans un délai de 9 mois maximum. Mais pour la SPA, le discours du général Burhan ne fera que raviver la flamme de la révolution.
Conflit au Cameroun, la crise humanitaire qui sévit dans les régions anglophones du pays est la plus négligée au monde. C'est ce qu'affirme le classement annuel de ces crises humanitaires publié ce mercredi par le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, présent au Cameroun depuis 2017. Les séparatistes anglophones au Cameroun, pays majoritairement francophone, militent pour la création d'un État indépendant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ils ont pris les armes contre Yaoundé fin 2017. La crise a déjà poussé plus de 530 000 personnes à quitter leur foyer, selon des chiffres de l'ONU. Et en 20 mois, le conflit a fait 1850 morts, d'après le Centre d'analyse géopolitique International Crisis Group, ICG. Le classement annuel des crises négligées publié par le NRC se base sur 3 critères, le manque de financement pour répondre aux besoins humanitaires, le manque de couverture médiatique et la négligence politique. Le Cameroun est suivi cette année par la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Justice au Burkina Faso, la Cour de cassation française a validé mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina. Ce frère de l'ancien président burkinabé est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat de notre confrère d'Albert Zongo. Mais pour être effective, cette décision nécessite encore un décret du gouvernement français. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La plus haute juridiction française a rejeté le pouvoir en cassation du frère cadet de Blaise Compaoré pour maître François-Henri Briade, son avocat. Une bataille est perdue, mais pas la guerre. Pour que cette décision soit effective, un décret doit être signé par le gouvernement français et l'avocat promet de l'attaquer devant le Conseil d'État. Déjà le 5 décembre 2018, la Cour d'appel de Paris avait autorisé l'extradition de François Compaoré. Âgé de 64 ans, il a été arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre 2017 suite à un mandat d'arrêt émis par Ouagadougou. Le dossier Zongo, classé en 2003 après un non-lieu, a été rouvert après la chute de Blaise Compaoré. Notre confrère Norbert Zongo a été assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur de François Compaoré avec trois de ses compagnons. Les dépouilles ont été retrouvées calcinées dans le sud du pays. Ce meurtre du journaliste garde une forte charge symbolique car le 13 décembre, des milliers de Burkinabés se rassemblent pour réclamer justice.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Lutte contre les djihadistes en Afrique. 8 policiers égyptiens ont été tués aujourd'hui dans l'attaque d'un checkpoint dans le nord du Sinaï, où les forces de sécurité affrontent depuis plusieurs années une branche locale du groupe État islamique. L'attaque a visé un barrage militaire à l'ouest d'El Arish, chef-lieu du nord Sinaï. 5 éléments terroristes ont également été tués et certains ont pris la fuite, a affirmé le Caire, en précisant que les forces de sécurité ratissent la région. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Au Ouganda, des dizaines de personnes sont portées disparues dans le district de Bududa, dans l'est du pays, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la Croix-Rouge locale. Les premières informations qui parviennent aux autorités font état d'environ 150 maisons qui pourraient avoir été détruites, de 5 personnes présumées mortes et d'environ 50 disparues, précise la Croix-Rouge dans un communiqué. Actualité américaine maintenant, ici aux États-Unis, les gardes de frontières du poste d'Eagle Pass au Texas, état du sud-ouest du pays frontalier du Mexique, ont appréhendé samedi dernier un groupe de ressortissants d'Afrique centrale. Ce sont au total plus de 150 Africains qui ont été interceptés à la frontière mexicaine au cours de la semaine écoulée. Michel Joseph.
Le 1er juin, des agents des frontières ont arrêté 37 immigrants clandestins venus de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. Ils étaient illégalement entrés en territoire américain en traversant le Rio Grande, ce fleuve séparant les États-Unis et le Mexique. Le groupe était composé presque entièrement de familles, y compris de plusieurs jeunes enfants. Ils ont été transportés au poste frontière de Eagle Pass. Les agents de l'immigration disent avoir appréhendé plus de 27 000 personnes venant de 37 pays depuis octobre 2018. Ces appréhensions de migrants non mexicains ont augmenté de près de 500% cette année. Nous continuons de constater une augmentation du nombre d'immigrants originaires de pays que nous ne rencontrons pas normalement dans cette région, a déclaré Raoul Ortiz, chef de patrouille du secteur de Del Rio. Des familles du monde entier parcourent des milliers de kilomètres pour tenter d'entrer illégalement aux États-Unis.
Actualité américaine toujours, les États-Unis ont imposé hier de nouvelles sanctions sur l'industrie touristique cubaine, un secteur essentiel pour l'économie de Cuba. Washington accuse la Havane d'ingérence au Venezuela pour son soutien au régime du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les détails avec Irénée Herman Ungo.
Washington, qui accuse la Havane de jouer un rôle déstabilisateur en Amérique latine, interdit désormais aux Américains de se rendre à Cuba en voyage de groupe. Les sanctions visent également les bateaux de croisière ou de plaisance et les avions privés ou commerciaux. Ces sanctions ont été annoncées le 17 avril par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, lors d'une visite à la communauté cubaine exilée de Miami. Ces mesures entreront en vigueur aujourd'hui et sont directement liées à l'industrie touristique cubaine, déjà visée par de précédentes sanctions selon le département d'État. Les États-Unis tiennent le régime cubain responsable de son rôle direct dans la crise orchestrée par Nicolas Maduro. Ces actes aideront à garder les dollars américains hors de portée de l'armée, des services de renseignement et de sécurité cubains, a expliqué le secrétaire américain au Trésor, Stephen Mnuchin. Ces mesures visent un secteur lucratif pour Cuba, car le nombre de touristes américains dans l'île a presque doublé entre janvier et avril par rapport à la même période en 2018.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.